Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France, en notre compagnie jusqu'à 19h pour parler d'actualités geek et ludiques. Aujourd'hui, nous sommes trois pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné comme d'habitude de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Bonsoir à tous.
On va comme d'habitude au sommaire de cette émission vous parler de l'agenda, quels sont les petites activités et événements qui ont lieu cette semaine et qui auront lieu prochainement. Nous allons également continuer un dossier de jeux de société que nous avons entamé la semaine dernière. Parce que grâce au Festival de Cannes des jeux de société, nous avons les nominations des As d'Or qui ont été annoncées. On va détailler avec vous certains des jeux. Nous avons bien sûr commencé la semaine dernière. Je vous invite à réécouter après cette émission ou quand vous en avez le temps, les podcasts, bien sûr. Alors, commençons bien sûr par l'agenda. Dominique, cette question éternelle, mais qu'as-tu fait ce week-end?
Ce week-end, bon, ça ne me dit pas grand-chose, mais cet après-midi, j'étais à la bourse. Alors, attendez, c'est quoi? C'est la bourse au modélisme ferroviaire. C'était à Tourcoing, dans la salle Rita Gérard.
Donc une salle de sport, c'est ça?
Oui, oui, une petite salle tranquille, de fait.
Est-ce que tu es reparti avec un train?
Non, et pourtant, il y avait de quoi. Effectivement, je me dis, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Et est-ce que ça marche toujours, le modélisme ferroviaire, les petits trains, etc.? Ça marche toujours, il y avait des passionnés. Et alors, c'était une bourse. Il n'y avait pas, malheureusement, il n'y avait pas de train qui tournait. Il n'y avait pas de train exposé. On ne pouvait pas jouer avec. Etc. C'était vraiment une bourse d'échange. Mais il y avait aussi des Lego, je vous rassure. Il y avait aussi des camions, il y avait aussi plein de trucs, j'ai mis quelques photos sur Instagram, et des vieux circuits jouets de qu'on a tous eu dans notre enfance, les voitures télécommandées, etc., dans leur jus et tout, et c'est très impressionnant, des panneaux entiers de camions, et, les tout, et même de quoi faire des décors pour les trains, donc de quoi faire des collines, des arbres, etc., mais tout plein de petits personnages dans toutes les positions possibles et imaginables, c'est très amusant.
Pour faire les spectateurs lorsque Exactement. Vous faites votre grand circuit.
Oui, par exemple, t'avais des lots de spectateurs pour le Tour de France avec les drapeaux et tout. Ah, c'est vraiment
si tu mets personne à ta gare quand tu fais ton plateau pour mettre ton train, ça sert à rien qu'un train passe. S'il n'y a pas de personne à mettre dedans.
Ah, oui. Peut-être un train de marchandises.
Et il y en avait des trains de marchandises. Il y avait tous les trains de tous les pays du monde et des trains avec des camions à toutes les effigies de toutes les marques. Bah, j'ai jamais vu train de wagon. De camions, de voitures, etc. Depuis très longtemps, dans un même endroit. C'est très impressionnant et on sent bien la passion chez ces gens.
Même ce sont des passionnés majoritairement qui participent à ces bourses.
Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment des échanges. Et il y en a d'autres. Il y avait une table remplie de prospectus pour les expositions à venir. Vous voulez que je vous fasse toutes les dates?
Non, est-ce qu'un néophyte qui veut commencer à faire justement du train ou un peu de modélisme ferroviaire, est-ce qu'il
tu vas commencer, j'imagine, par des petits trains. Oui, ouais. Faut y aller. Par contre, faut avoir un bon petit portefeuille.
Voilà.
Parce qu'il y a tous les budgets. S'il y a des trucs d'occasion, il y a des trucs à l'unité, il y a des trucs encore en boîte, des modèles très très rares, il y a du très 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 étonnant. Donc, il y en a pour toutes les bourses.
Alors, vu qu'ici, on tape dans le modélisme, on est loin de jouer, puisque...
Tu joues pas avec ça, attention.
Voilà, quand on a une reconstitution d'une locomotive exceptionnelle, forcément, le prix derrière...
Exactement.
Il faut aligner. Donc, c'est peut-être pas des bourses qui sont forcément destinées aux néophytes qui souhaitent...
Je m'attendais à voir que des cheveux gris. Il y en avait pas mal. Beaucoup de messieurs, pratiquement que des messieurs, faut avouer. Hein. Mais il y avait aussi quelques jeunes qui avaient... Alors, c'était organisé par l'association Ferronord, et donc ils ont pas mal de membres. Et effectivement, il y a quelques jeunes dedans, mais il y a plein d'autres associations. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, attention, je vais dérouler. En février, par exemple, le 26 et 27 février, à Violaine, dans le Pas-de-Calais, si j'ai pas de bêtises,
Oui, à la limite, effectivement.
Tout juste, hein. Une expo bourse, le samedi et le dimanche, de 10h. Alors là, c'est spécialisé dans tout ce qui est pompier, camion de pompier. Il y aura des jouets anciens autour du pompier. Tu pourras t'entraîner à marcher un extincteur. Tu pourras conduire un camion de pompier. Alors, c'est la folie.
Mais pas. D'accord, là, on quitte l'univers du train. C'est encore du modélisme.
Il y a des jouets anciens autour du train, etc. Bien sûr. Bah, là, cet après-midi, j'ai vu pas mal aussi. Il y avait des camions de pompiers, etc. Donc il y avait vraiment de tout. À Ternier, le 13 mars, donc ça c'est dans l'intérieur, la 8e bourse au modélisme ferroviaire, le 19 et 20 mars, ça c'est à Lille, à Sébasto, deux jours, le 19 et 20 mars, donc là c'est week-end de modélisme ferroviaire. En avril, à Hamel, dans le Nord, Expo Bourse 2022, le salon du modélisme, toute discipline, s'il te plaît.
Ah voilà, donc là on part.
À Hasbrook, les 4 et 5 juin, la 6e édition du Hasrail. Donc là, c'est vraiment le modélisme ferroviaire sous toutes ses formes. Et j'en ai encore. La 30e bourse Mania, Alors là, c'est un truc énorme. Le 16 et 17 avril, à Monchécourt, dans le Nord, il y a deux salles. Une multicollection, ça va tout. Hein. Ça va du pin, ça va la carte postale, il y a tout. Et dans la deuxième salle, c'est le modélisme. Donc des maquettes, des figurines, des trains, etc. Ensuite, la Valexpo Train 2022 à Valenciennes, comme son nom l'indique. Donc c'est le 1er et le 2 octobre. Ça, c'est encore plus loin. Donc tu vois, ce n'est pas un hobby qui est mort.
N'hésitez pas à repasser le podcast futur en 05 pour entendre.
Attention, ça c'est sous réserve d'annulation, hein, vous savez bien.
Alors moi je m'étais, puisque j'ai croisé un ami qui s'était lancé dans sa propre chaîne de modélisme, comme ça. Alors ça s'appelle Archilon Model Kit. Je pense qu'un jour, soit on l'aura en interview parce qu'il n'est pas d'ici, mais lui il est spécialisé dans les véhicules militaires, tout ce qui est char.
Et tu es obligé de te spécialiser, il y a tellement de choses, tu peux pas sinon... Bah, physiquement, c'est pas possible pour avoir un hangar chez soi.
Ouais, puis quand tu recherches les informations, les références pour être pointilleux sur ton modélisme, tu peux pas tout connaître, c'est impossible.
Et donc lui, vous plonge donc dans la réalisation de maquettes et surtout la peinture. C'est là qu'on voit les. C'est un peu comme la peinture de figurines. On en a longuement parlé avec nos invités.
Alors c'est encore pire chez les
militaires
parce qu'il
faut apprendre des techniques,
etc. Il faut être super précis.
Voilà.
Attention, un tel bouton de manchette qui est que tu vois même pas à l'œil nu.
Si tu l'as
il faut qu'il soit de la bonne couleur.
Au lieu de argenté, tu te fais déglinguer par les connaisseurs.
Ah, attention. Hein.
Ce qui est sympa, c'est que il demande à sa communauté un peu quel modèle on va faire prochainement, où il fait des sessions d'un peu de Q&A avec sa femme, donc c'est assez intéressant. Donc je vous envoie vers lui, Archilon Model Kits sur YouTube.
Archilon.
ARKILON.
Faut bien préciser. Le seul défaut cet après-midi, c'est qu'effectivement, c'était une bourse, mais il n'y avait même pas de train qui tournait, quoi. Oh.
Je pensais que tu allais dire qu'il n'y avait pas de buvette.
C'est un peu
il n'y avait pas de buvette non plus.
C'est un peu comme une expo ça, Lego sans pouvoir toucher de la brique.
Ouais, c'est ça. Mais au moins, dans l'expo Lego, il y a des scènes, il y a des mises en scène, il y a même des trains qui tournent. Hein, mais là, il n'y avait rien. Non. C'était vraiment expo entre connaisseurs, mais il y avait de quoi te faire plaisir et retomber un peu en enfance. Et il y avait aussi des Lego. Et donc, j'ai croisé un des membres de l'association ACT qui organise une expo dont on a parlé, qu'on a annoncé récemment, qui vient tout juste de commencer hier à Los, à La Fileuse, une exposition autour du Lego. Et il m'a dit, c'est un vieux copain que j'ai croisé ici à la fac, donc tu vois, et vendredi, ils ont installé l'expo, et samedi, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont visité, donc un gros succès déjà, donc quoi, peut-être que des gens nous ont entendu l'annoncer. Donc c'est jusqu'au 11 février, donc c'est vendredi prochain, je crois. Donc lafileuse.org pour avoir les horaires.
À l'os dans la salle.
Tout ça.
Voilà. Alors, je vous propose de commencer un peu en musique, à découvrir.
J'aime pas quand il dit ça.
Des petites œuvres. Un peu comme on a initié la semaine dernière, ça sera mélangé entre découverte d'albums qui viennent de sortir et découverte d'albums qui ont eu du mal à sortir. On va commencer tout de suite par ce hobby qu'on a maintenant, c'est de découvrir les albums de reprise. On a fait Jean-Jacques Goldman la semaine dernière et cet autre grand artiste qui est Julien Clerc qui reprend ses propres chansons. Alors je vous épargne ça cette semaine. Là, on va nouvel artiste.
Il reprend ses propres chansons ?
Oui. Non, ça marche pas ?
Ce qu'on a passé la semaine dernière ?
Oui.
Non, il reprenait les vieilles chansons de Charles Trenet et compagnie.
Ah, c'est vrai, oui.
Mais il les mettait à sa façon, c'est-à-dire suicidaire.
Un peu comme si c'était ses propres chansons. Ouais. Alors ici, c'est Cat Power qui va se lancer dans la reprise également, un album de covers intelligemment appelé Covers.
C'était pas pris.
Le premier titre qu'on va s'écouter est une reprise de Nick Cave qui s'appelle I Had a Dream, Joe. Est-ce que ça sera aussi réjouissant qu'un album de Julien Clerc ?
Nick Cave, gars.
L'album est rayé.
Open my eyes.
On a encore des auditeurs vivants.
Ah, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément choisi les chansons, premièrement, les plus connues de certains artistes, ni les artistes. Alors là, j'ai pris Nick Cave parce qu'on on connaît un peu tous, mais il y en a plusieurs. Là, j'ai Endless Sea de Jem Oosterberg. C'est toujours un tempo assez lent ici, hein, qu'on retrouve. Dans cet album Covers, on pourrait même le laisser en fond pendant qu'on continue à dépiler l'agenda. Alors, d'autres activités ludiques. Ici, on va partir un peu dans le fantastique avec un festival qui aura lieu du 4 au 26 février.
Absolument, c'est un festival qui a lieu tous les ans, parce qu'on en avait parlé l'année dernière. C'est un festival, alors c'est organisé par Marc en Barreul, mais ça se passe un petit peu partout dans la métropole. Ça s'adresse principalement aux enfants, mais pas que. Il y a des spectacles, des ateliers, des lectures, je sais pas, je vais prendre au hasard, on va essayer de prendre quelque chose qui n'est pas passé encore. À la salle Allende à Mont-Saint-Barreul, un stage de musique et chant pour les enfants. Il y a un atelier conte. Il y a des lectures à la médiathèque de la Madeleine, par exemple. Le 9 et le 12 février, à partir de 11h, pour les 4 ans et plus, hop, des histoires à conter. Mais genre des contes célèbres, genre les trois petits cochons, petit chaperon rouge, mais de façon détournée. Donc à chaque fois, c'est autour. Les voyages au pays imaginaire, à la bibliothèque de Bondu, le 9 février à 16h. C'est gratuit, il faut s'inscrire parfois. Donc toutes les informations, c'est sur Marc en Barreul, donc marc-en-barreul.org, et vous pouvez télécharger le programme pour avoir toutes les informations. Il y a des trucs pratiquement tous les jours et qui s'adressent à tous les publics, mais même pour les grands. Donc voilà, très sympa.
C'est un nouveau concept dans l'émission. Alors, également, alors c'est lié à un invité qu'on va recevoir la semaine prochaine.
Oui, c'est les gens de Pulpo Ludo qui viennent juste de lancer leur société. Moi, je les avais déjà croisés sur des événements. En fait, ils proposent déjà un système de location de jeux, mais aussi de conseils en jeux de société, au lieu de dépenser des tonnes comme certains autour de la table. Voilà.
On n'est pas
forcément la cible, nous, parce que voilà, je veux ramener. Bah, hier soir, j'avais une soirée des amis. Ramène 2-3 jeux. Bon, j'ai ramené un sac de jeux.
Alors, la grande question voilà. Qu'on peut poser, par exemple, à Reynald, quel est le pourcentage de jeux dans ta collection auquel tu as joué?
Je dirais un petit 70%.
Pas mal.
Mais vu le nombre de jeux que j'ai, c'est pas encore assez.
Et donc voilà, mais il y a des gens qui ont soit pas beaucoup de place, ou qui n'ont pas le temps de choisir, ou qui ne s'y connaissent pas, ou qui commencent dans le jeu. Et bien il y a des gens qui s'y connaissent, parce que je crois que c'est des anciens qui sont des bénévoles sur des festivals. Enfin, de toute façon, on parlera avec eux la semaine prochaine. Donc pour 15€ par mois, tu t'abonnes et tu reçois des jeux, mais aussi des conseils. Voilà, c'est vraiment ça coûte moins cher que acheter un jeu pour un gros jeu, même sur un conseil. Et si le jeu te plaît pas, bah t'en fais quoi? Tu le revends, tu le donnes. Donc là au moins t'as les jeux, tu les reçois. Quand t'as fini de les utiliser, tu les renvoies. Ils sont, pour le Covid, ils sont même en quarantaine pendant plusieurs jours pour éviter de. Tu vois, c'est vraiment très bien fait.
C'est
et toujours... ils donnent aussi des conseils, c'est ça qui est aussi très important, et qui s'adaptent. Tu sais que tu vas organiser une soirée où tu vas recevoir autant de personnes de tel âge, bah, eux, ils peuvent te trouver les jeux adaptés pour. Et toi, quand tu es en magasin, des fois, même avec un, tu peux être un peu perdu. Quoi.
En tout cas, on en parlera plus en détail forcément la semaine prochaine. Alors pourquoi est-ce qu'on les cite maintenant? Puisque le 8 février, donc dans deux jours, c'est mardi,
c'est ça,
à l'Archétype de Lille.
C'est un café qui est à côté de la Porte de Paris. Et ils organisent une soirée jeu. Donc ils vont présenter leur concept, bien sûr, mais aussi organiser une soirée jeu. Donc on peut les retrouver. Si vous allez voir sur leur Facebook, donc Pulpo Ludo, P-U-L-P-O-L-U-D-O, sur leur Facebook, vous pouvez les suivre, leurs événements, leur programme. Vous les rencontrez dans des bars comme ça. Et peut-être vous abonner.
Donc c'est dans ce genre d'endroit que je peux trouver des gens pour jouer à Dune, c'est ça? Parce que j'ai mon jeu qui prend la poussière.
Ça commence à 19h.
Tu parles du dernier jeu en date sortie ou tu parles du jeu de cartes Dune?
Le jeu des cartes. Et mon jeu de cartes aussi.
Voilà.
Par la même
pourquoi
occasion.
Hein,
donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Pulpo Ludo sur leur Facebook et on va en parler plus en détail la semaine prochaine. Alors, il y a autre chose qui est proposé. Alors, cette fois-ci, c'est une sortie de jeu vidéo, Dominique. Puisque...
Ah bon, oui, c'est un nouveau jeu Amazon qui sort. Va-t-il être retardé ou pas? Oui, c'est Lost Ark. Lost Ark Online, qui est un jeu gratuit en plus. Alors, on peut acheter des packs, ce qu'on appelle des packs fondateurs, hein, pour avoir...
voudrais dire qu'Amazon a travaillé sur deux MMORPG?
Exactement. Bon, en lançant deux, il y en a peut-être un des deux qui va marcher.
Alors apparemment dans un style différent, puisqu'on a, on a toujours deux styles de MMORPG, les classiques à la World of Warcraft, et les JMMORPG, les un peu...
Les ARPG. Là, on est quelque chose qui est entre un vrai un MMO classique, on va dire, la World of Warcraft et compagnie, ou même l'autre jeu d'Amazon, c'est quoi, New World?
C'est ça.
New World, qui est sorti.
Brave New World. Brave New World.
Non, c'est New World.
New World. Ouais, peut-être l'un des deux.
New World, enfin le jeu, voilà, qui a fait beaucoup parler de lui. Puis maintenant, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui y joue, parce que les gens se sont aperçus, bon, bah, on fait toujours la même chose. Et donc là, c'est un jeu qui existe depuis quelques années maintenant en Corée et en Russie. Il y a beaucoup de joueurs français qui sont allés squatter un peu les serveurs aux Russes ou Coréens grâce à des VPN, etc. Et donc là, il sort donc le 11 février, version gratuite. Mais si vous avez acheté un pack, vous pouvez jouer en avant-première le 3, le mardi. Sauf si vous êtes, voilà. On est entre Diablo, il y a pas mal de classes, et entre Diablo et un MMO classique, quoi, au niveau d'action. J'ai testé moi-même pendant la dernière bêta. Ouais, c'est très sympa, j'ai joué à quelques...
C'est ce que j'appelle le genre de jeu où on joue qu'à la souris, quoi. Vous pouvez passer d'une main.
Et ce qui est surprenant, c'est que ce jeu...
World, tu vas plus ou moins
jouer. Le jeu est vraiment magnifique, et quand tu vois les graphismes, il tourne sur des machines pas forcément récentes, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est vraiment... Et à la totale, les raid systèmes de guild, du craft, de la progression, c'est vraiment du PVP et compagnie. Enfin, donc, c'est à tester de toute façon, c'est un free to play.
Donc, sur Lost Ark Online, Ark, rien à voir avec le jeu avec les dinosaures.
C'est une arche, c'est le nom anglais.
Qui tourne encore, je suppose. J'ai eu la grande surprise de voir que Conan Exile, qui est un MMORPG qui est sorti
en dessous
du tapis et qui est resté, est encore en cours de développement.
Mais bien sûr, je crois qu'il y a...
Oui, il fonctionne encore très bien.
Il y a encore des DLC.
Oh, oui.
Donc un jour, je pense que je vais aller...
Moi, j'avais testé. Donc,
autre petite chose sur l'agenda. Attends, je vais profiter pour remettre un peu la...
Ah oui, attention.
L'album Covers.
Des fois qu'on aura encore quelques auditeurs vivants.
Au cas où vous étiez réveillé, je vous rendors. Il y a d'autres albums, bien sûr, découvertes, hein, je vous rassure. Est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir pour Reynald? Je sais que Pierre-Yves attend avec impatience que nous passions du Red Hot Chili Peppers.
Ah, il nous a fait une demande officielle, bonne et due forme.
Il va falloir attendre un peu, puisque là, c'est l'album de Korn.
Un nouvel album qui sort.
Qui est sorti, voilà.
Une bonne surprise.
Et non.
Avec des covers.
Malheureusement, pas de reprise. Je vous propose de découvrir... Elle va se calmer, l'autre. une chanson qui s'appelle Prenance to Sorrow pour le nouvel album de Korn.
On va réveiller les autres morts.
Alors, on les avait endormis la chanson précédente, là on va les réveiller.
L'album s'appelle Requiem. Outside, I'm looking for an answer, 'cause inside is gone. Each step, the ground beneath me starts to break. I can't hold on.
Rushing back again, too much to know. It's ripped the seam, I stitch it up again. Somehow it stays on.
Toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et DAB+, ou sur le site campuslille.com pour nous écouter directement grâce à cette merveilleuse technologie qui est Internet. On vient d'écouter Korn avec leur nouvel album Requiem et la chanson Penance to Sorrow. Dom, tu les as trouvés un peu fatigués, les Korn.
On va dire oui, au minimum. Hein.
Ouais, c'est vrai que bah, c'est sans compter les compilations, les albums live, etc. Ça leur fait leur 14e album depuis
30 ans d'existence.
Depuis 94. Enfin, 93, ça devait être une. 93, 94. Enfin, bref, ils avaient fait une démo, ça avait bien marché. Ils ont fait leur premier album 94. Donc, par contre, pour les plus fans vont te dire que les premiers vrais albums comme Follow the Leader ou Life is Patchy sont les meilleurs, mais ça date quand même de 93-94. Ils ont le temps d'évoluer, ils se sont vraiment assagis, mais tu vois, vers la fin du morceau, ils ont quand même commencé à faire du gros son. Ils ne peuvent pas s'en empêcher.
C'est ça. On voit que le maïs essaie de rester un peu dans les roots. D'autres petits événements, Dominique.
Ah, oula.
On peut attaquer les Asdor directement, hein, puisqu'on a entamé la semaine dernière avec la catégorie jeunesse, un peu les jeux pour enfants, avec ces trois nominés. Cette fois-ci, on est sur la catégorie tout public, qui porte le nom de la catégorie Asdor.
Asdor. Parce qu'à l'origine, il n'y avait qu'un seul prix, c'était celui-là.
C'était celui-là. Celui donc qui permettait de primer le jeu, qui allait pouvoir au mieux montrer la découverte et promouvoir le jeu de société
en France. Et vendre des tonnes.
Et surtout en vendre des tonnes, un peu comme faisait à l'époque le jeu allemand.
Alors, c'est assez amusant de voir que, comme dans le jeu vidéo, ici, on a des jeux de société qui vont être des franchises et qui vont s'exporter un peu. Là, c'est Seven Wonders, qu'on a pu connaître sur plusieurs formats, puisque bon, il y a le Seven Wonders classique et ses extensions. On a également Seven Wonders Duel.
Duel.
Et cette fois-ci, c'est l'édition Architect.
On pourrait parler de Seven Wonders Junior.
Ah, bonne question.
Je suis sûr qu'ils y travaillent.
Donc, le jeu d'Antoine Boza, ici, est un peu une version simplifiée. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ?
Plus familiale, moins complexe.
Alors, moins complexe, même si lorsqu'on voit des gameplays, il faut se replonger un peu dans dans la mécanique d'un jeu Seven Wonders. Ici, vous allez devoir construire votre merveille et pour cela, récolter forcément des ressources.
Bah, Seven Wonders n'a jamais vraiment été compliqué. Ça peut faire peur, mais une fois que ce qu'il faut surtout expliquer, c'est tous les petits symboles qu'il y a sur les cartes. Et une fois que tu as compris, après le deuxième tour, c'est parti, quoi. Il y a le comptage de points qui est à la fin qui peut être compliqué, mais on va dire que tu as tout de suite envie d'en refaire et puis de tu sais que la prochaine fois je vais faire comme ça. Puis c'est un jeu en plus qui a énormément de rejouabilité.
Tu peux même te jouer à 7 ou 8, je crois, au Seven Wonders de base. Tu sais que de toute façon, tu vas jouer avec ton voisin de gauche et ton voisin de droite. Donc ça te simplifie énormément le jeu.
C'est que comme tout le monde joue en même temps, il n'y a pas le temps, ça n'allonge pas la durée de. Là, ce que j'aime bien dans le nouveau, c'est le matériel est assez impressionnant.
On voit qu'il est adapté pour un public familial où tu as des petites maquettes, enfin des petits morceaux de bois qui te représentent ta merveille.
Au niveau matériel, là, qu'ils ont assuré.
Il faut retourner une fois que tu les as construites pour dire voilà, j'ai commencé à construire ma merveille, ben je peux retourner ça pour qu'elle soit maintenant du côté imagé, bien dessiné.
Alors chaque joueur a sa boîte individuelle avec ses propres cartes, représente une civilisation, donc c'est une évolution sympa. Hein. Ouais.
Chaque merveille peut aussi apporter des bonus différents aux joueurs, donc tu peux très bien commencer avec telle merveille, puis faire une prochaine partie avec une autre. Tu auras déjà le paquet de cartes qui sera différent, mais aussi la façon de construire ta merveille et les bonus qu'elles te donneront qui seront différents, et les façons de gagner aussi qui seront différentes. Et par contre, ça reste comme un Seven Wonders, on va dire normal, hein, c'est que on peut piocher une carte là directement, soit dans le paquet de notre voisin de droite ou le paquet de notre voisin de gauche, ou au hasard dans le paquet qui est au milieu. Et on voit que ce qui arrive, si c'est une carte ressource, ça nous permet de mettre pour notre merveille. Si c'est une carte combat, ça nous permet de commencer à créer une force militaire pour aller gagner des points de victoire, qui sont une autre façon de gagner contre ses voisins. Et il peut avoir aussi des petites cartes, on va dire, scientifiques, qui nous permettent d'avoir des petits bonus, soit pour gagner des points de victoire en plus, soit pour agrémenter notre façon de jouer. Quoi.
Les joueurs classiques du Seven Wonders classique ne vont pas du tout être dépaysés.
Ah oui, non, et puis ils vont même être sur la tente en disant « Et ?» Il y a quoi d'autre en plus ?
C'est ça.
Voilà. C'est juste la version familiale du jeu Seven Wonders Duel.
À savoir que Seven Wonders est l'un des jeux les plus titrés au monde, avec le Spiel, le L'As d'Or, le Golden Ludo, le Deutscher Spiel, le Golden Geek. Enfin, voilà.
C'est une mécanique.
Le Tri-Track d'Or. Et bon, c'est pas étonnant qu'on a continué un peu à tirer sur la corde pour voir jusqu'où il allait avoir du pognon à accrocher jusqu'au bout.
Je sais pas si c'est vraiment ça, mais.
Connaissant Antoine Boza, il n'y a pas. Quand on connaît un peu le personnage, tu sens pas le personnage qui veut ça. Tu vois, il est plutôt je conçois quelque chose et si ça peut être produit, je le fais. Et
c'est toujours chez Repoprod ?
Oui,
exactement. Produit avec Asmodée également.
Ça.
Et là, tu vois, malgré qu'on dit que ce soit, qu'on n'arrête pas de dire que ce soit des règles un peu simplifiées ou moins complexes de Seven Wonders Duel ou Seven Wonders, tu as quand même de 2 à 7 joueurs, mais à partir de 8 ans. Donc, tu peux jouer avec tes enfants, les faire apprendre le jeu de société, dire voilà, vous avez. Ou juste mamie, belle maman, tout ce que tu veux. Vous avez bien aimé cette partie, bon, maintenant je sors le jeu de base. Il y a un peu ça qui est compliqué un petit peu en plus. Et on peut jouer.
Alors Antoine Boza a également participé donc au jeu Tokaido. Il y a La Grande Évasion, Last Baston et dernièrement forcément Seven Wonders Architect. Alors deuxième jeu nominé, c'est Cartaventura Lhasa. Alors ici on est sur un jeu, est-ce qu'on peut appeler ça un jeu d'enquête, un jeu d'histoire, une chasse au trésor?
Oui, fait partie des jeux narratifs. Alors c'est très simple parce que quand tu achètes le jeu, t'as une boîte et dedans c'est que des cartes carrées, très bien illustrées, et un petit peu à la façon des jeux d'aventure ou des livres dont vous êtes le héros ou certains escape games sous forme de cartes, et ben y a pas de règles. Les règles, il faut lire la première carte et puis tu suffit de suivre les instructions qui sont dessus et tu vas devoir faire des choix à un moment, suivre des embranchements. Ça, je joue tu peux jouer tout seul, tu peux jouer à plusieurs. Chacun va avoir ses propres cartes à un moment. On réfléchit ensemble. Il y a des énigmes, mais pas forcément que. Et c'est très orienté autour du Bagonda. Par exemple, l'Assas se passe au Tibet. Il y en a qui se passent dans la Grèce antique, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un qui est sorti, qui se passe dans le monde du western. Et à chaque fois, tout un bingo, les personnages qu'on rencontre sont des personnages qui existent vraiment. Ouais. C'est pas un personnage fictif, hein, mais. C'est vraiment une aventure où on se laisse porter. Et puis ça prend pas beaucoup de place, on peut jouer sur une table de café, c'est ça qui est bien.
Et pour ceux qui aiment bien, tu as un petit livret de background qui t'explique vraiment bien sur quel thème et pourquoi le jeu a été tiré et fabriqué là-dessus. Il y a de quoi lire, c'est très intéressant.
Un jeu, ça coûte 10-12 euros peut-être.
Il y a vraiment.
Il est rejouable en plus, c'est ça qui est bien.
Il y a un point qui est fait sur l'immersion, donc avec cette aventure, on va vraiment vous plonger. Alors, va falloir lire, hein, puisque même si la carte est petite, il va y avoir du texte, mais justement, ça permet de muscler un peu l'histoire.
Il n'y a pas de matériel supplémentaire, c'est-à-dire que même si, au moment, il n'y a pas besoin de noter des choses sur un papier, toutes les cartes que tu vas garder, ça peut représenter des objets, tu vas les utiliser pour... il y a les cartes avec des compteurs, par exemple, avec un nombre de points, et tu vas tourner la carte pour augmenter ou pas le nombre de points que tu as. Donc, enfin, tout est bien fait, tu n'as vraiment pas besoin de matériel. Je l'ai fait tester à des gens qui n'étaient pas forcément joueurs ou qui n'aimaient pas forcément ce intéressé à ce genre de jeu, et tout de suite tu sens qu'ils sont vraiment immergés tout simplement dedans.
Alors tu me disais qu'il y avait un indice de rejouabilité également.
Oui, parce qu'il y a plusieurs fins possibles, il y a plusieurs choix, et c'est pas contrairement à un escape game style Unlock par exemple. Une fois que tu connais la solution ou les indices, tu peux plus trop y jouer, quoi, à moins d'attendre quelques années, et encore tu vas te souvenir des solutions. Donc là, même si tu connais, tu vas essayer de rejouer un petit peu façon livre dont vous êtes le héros pour essayer de faire les autres fins, quoi.
Tu vois, c'est comme si tu faisais un mélange des deux jeux très intéressants qui avaient fait fureur à l'époque, qui était le 7e continent. Mmh. C'est grosso modo la même mécanique de façon de faire au niveau du gameplay, mais avec du matériel qu'avait fait, par exemple, Fredman Friese, qui avait sorti toute une gamme de Fast Forward, où pareil, tu avais un paquet de cartes, tu lisais la première carte qui t'indiquait généralement la règle de base, tu retournais la carte et le jeu commençait avec la carte suivante, et après tu avais les cartes, etc., etc., que tu pouvais remettre dans l'ordre pour faire une nouvelle partie. Et tu avais par exemple comme Fortune, Frayeur, Forteresse, Fuit, tout ça, ce sont des jeux de Friese qui avaient bien fonctionné à l'époque, mais c'est ces deux gammes-là qui se sont mélangées pour justement faire Carte Aventura.
Et c'est vraiment, là, tu peux jouer avec même des gens qui ne sont pas joueurs, quoi. T'as presque l'impression de raconter une histoire et de vivre une histoire ensemble, voire de suivre un film, enfin, c'est presque ça.
Et puis, comme disait Dom, t'as juste à poser le paquet de cartes sur la table et il n'y a personne qui a besoin de lire les règles. Tu lis la carte, ça démarre, tu lis. Et tout le monde réinteragit tout de suite.
Alors, c'est un jeu de Thomas Dupont avec comme scénariste Arnaud Ladagnou, illustré par Guillaume Bernon et Jeanne Landard, et tout ça édité par Blam, distribué par Black Rocks Game. Un jeu qui a ses chances, mine de rien, même si...
Difficile à dire.
Alors quand j'ai découvert le jeu, moi j'avais un questionnement, je me dis mais ça existe déjà.
Okay. Mais tout existe déjà. Tout existe déjà. Mais là, le packaging, le prix, les illustrations et tout, c'est pas mal. Et il y a d'autres jeux dans la gamme, quoi. Je crois qu'il y a 4 ou 5 thèmes maintenant sur Carte Aventura, à chaque fois avec des mécaniques un peu différentes.
Alors, deux jeux qui, pour l'instant, sont quand même destinés, même s'ils sont grand public, à des joueurs un peu confirmés, je pense. Alors que le dernier jeu, Happy City, lui, pour le coup, se destine à des joueurs de... Allez, 10 ans plus. Ici, ce jeu de Hiro et Toshiki Sato va vous inviter à construire une ville. Donc, c'est un jeu de cartes. Ici, vous allez, comme les autres jeux de City, en fait. Hein. Vous allez donc acheter des cartes et vous allez construire votre ville.
On commence tous avec le même
bâtiment
de départ, ouais. Quoi. Et puis le but, c'est de développer sa ville. Alors, il y en a qui vont plus s'orienter en faisant des commerces, d'autres peut-être des industries ou des bureaux, des parcs, etc. Mais tu vas gagner des points en fonction et avec une mécanique de cartes.
Ouais. Tu as sur les différentes cartes, il y en a qui vont te faire rapporter, enfin, que les cartes, tu les achètes avec de la monnaie, donc des pièces que tu reçois en début de tour. Et donc certaines cartes te rapporteront un peu plus de monnaie en début de tour, d'autres te rapporteront des villageois, enfin des personnes que tu mets dans ta cité ou des cartes qui t'y ramèneront du bonheur. Et une fois qu'un joueur a atteint 10 cartes en tout dans son jeu, on finit le tour et on compte les points. Et les points, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite.
Surtout quand les joueurs ont un petit peu d'expérience.
Et les points, pour savoir qui gagne la partie, c'est tu regardes le nombre de personnes qu'il y a dans ta ville. Tu regardes le bonheur que tu as dans ta ville, tu additionnes le nombre de personnes et le nombre de bonheurs et tu les multiplies l'un avec l'autre. Donc tu es obligé d'avancer les deux.
C'est aussi simple que ça.
Hein. Ah ouais, ça va. Le petit twist qu'il y a dans ce jeu, c'est que tu as trois niveaux de bâtiments que tu peux construire. Donc des très simples, des moyens et des très durs à obtenir mais qui rapportent beaucoup. Mais tu ne peux pas tous les mettre apparents sur la table et après les choisir. Chaque tour, tu peux ce que nous on appelle discarder, donc en défausser un et pour que tous les autres joueurs ne puissent pas l'avoir, puis après remettre jusqu'à trois bâtiments visibles.
C'est une espèce de marché au milieu.
Ouais, voilà. Mais c'est toi, à ton tour, tu décides avec ce qui est déjà présent, tu peux en enlever un de la liste et dire je vais en mettre un facile, un moyen, j'ai encore une place, je vais mettre encore un moyen. Donc c'est toi qui fais le marché à ta façon pour ton tour et en espérant pas trop donner de latitude pour le joueur suivant. Donc ça te pousse quand même, ce n'est pas qu'un simple jeu de comptoir, ça te pousse quand même un petit peu à réfléchir, un peu comme pour Seventh Wonders Architect, où tu dois dire, je vais prendre la carte qui est là, parce que l'autre voisin à côté va lui prendre, et c'est peut-être mieux pour lui.
Et dans ce genre de jeu, il y a toujours le moment, au début il faut gagner des ressources pour acheter les meilleures cartes, puis à un moment il faut arrêter d'acheter des cartes, et il faut commencer à prendre des cartes ou à faire des actions qui rapportent des points, et c'est toujours ce qu'on appelle le moment de bascule, à quel moment tu le fais. Si tu le fais trop vite, tu vas être embourbé, tu vas pas gagner et tu vas te faire rattraper.
Puis si tu fais pas assez vite et que quelqu'un d'autre enclenche la fin de partie, tu te retrouves avec zéro point de victoire.
Alors graphiquement, on est aussi proche qu'il en est du gameplay que d'un jeu comme Miniville, par exemple.
Je me demande si c'est pas le même auteur, parce que Miniville c'était d'origine japonaise aussi. C'est un jeu qui venait du Japon, peut-être même le même auteur.
Et il y avait eu cette version Legacy qui reprenait, qui ajoutait rien de nouveau, mais qui permettait de refaire le jeu avec ses extensions, mais en partant de rien.
Pour les joueurs qui voulaient aller un petit peu plus loin, parce que Miniville, pour des joueurs gros expérimentés un peu comme nous, c'était un petit peu répétitif, un peu doux, quoi. Enfin, un peu mou même. C'était un peu lent à démarrer. Mais avec rajoutant un twist comme le Legacy, ça peut être très sympa. Donc là, est-ce qu'ils ont réussi à faire quelque chose un peu plus...
Je l'ai pris le Legacy et du coup, tu as des cartes. Le gagnant de la partie va décider quel sera le bâtiment, puisque la carte est recto verso, donc il va choisir soit un bâtiment qui rapporte des ressources, soit qui impacte l'autre joueur. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est qu'on va pouvoir aller titiller son adversaire. Dans Happy City, c'est un peu trop happy pour le coup.
Happy City, c'est vraiment pour faire une partie, voire deux, mais sans chercher à te développer comme dans Miniville.
Alors, entre les trois, je ne sais pas.
Alors, encore Asmodée ici. Hein, donc
Oui, mais de toute façon...
Qu'est-ce qui n'est pas Asmodée aujourd'hui? Édité par Cocktail Games. Allez, je vous le demande à chaque nomination. Quel est votre favori pour cet As d'or, catégorie As d'or?
Ils sont tellement différents. Au niveau des prix, je ne sais pas dans quel gamme. Donc, Carte Aventura, c'est dans les 10 euros.
P-City, pareil, 15-20 euros, grand max.
C'est bon, une toute petite boîte alors.
Ah oui, il y a la P-City, il n'y a pratiquement rien, il n'y a que des cartes et des jetons. Okay. Et
moi, je vais mettre des points sur Carte Aventura.
Ça doit être au moins 30-40 euros facile. Il y a plus de matos.
Je pense que Seven Wonders n'a plus besoin de prix. Il est nominé, c'est déjà très bien.
Oui, mais attends, n'oublie pas que...
C'est étonnant qu'il ne soit pas dans les catégories experts ou initiés. C'est louche.
L'As d'or, c'est justement pour promouvoir le jeu de société. Donc, il faut voir les trois jeux qu'on vient de dire. À ton avis, pas forcément le jeu te plaît. C'est à ton avis, quel est le jeu qui va pouvoir faire jouer d'autres personnes? Sachant que le Seven Wonders veut permettre à des familles de jouer à ton jeu que tu étais le seul à jouer parce qu'il était un peu trop complexe. Ouais. Il y a le Happy City.
Est-ce que tu peux l'expliquer?
Voilà, il y a de ça aussi.
Il y a Happy City qui permet à des joueurs qui aiment bien les jeux complexes de jouer avec ceux qui aiment bien les jeux complexes.
Parce que ça, au moins, t'arrives à l'expliquer.
Tu peux jouer avec des enfants, tu peux jouer de façon simple et tu peux le jouer avec des joueurs un petit peu plus vicieux. Je suis sûr que tu peux y jouer de façon un petit peu méchante.
Ouais. Et Carte Aventura, tu peux très bien te dire, je le pose sur la table.
Celui-là, il va faire jouer. Voilà. Celui-là, il va vraiment faire. Même des gens, je te dis, mais tu peux le mettre. Même dans des maisons de retraite ou même avec des enfants, des gens qui n'ont pas l'habitude, à part le Monopoly, le Cluedo, qui connaissent pas les jeux, tu vas poser ça sur la table, tu pars, je sais pas combien, tu as une partie, mais peu importe. Et il y a des gens qui vont estimer, les jeux, ça peut être comme ça aussi. Il n'y a pas de dés, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien, on compte pas les points, et c'est très sympa. ça peut faire venir beaucoup de gens. Voire, je dis des bêtises, même vers le jeu de rôle ou ce genre de choses autour du narratif, quoi.
Ouais, ça, c'est complexe, là, pour le choix.
N'hésitez pas à aller sur notre page Facebook ou Instagram, Heureusement en France, et donnez-nous un peu...
C'est l'histoire de pot de vin, sans doute. Hein.
Vos pronostics pour cette nomination. Alors, on va continuer un peu ces découvertes musicales. Je vous propose d'écouter un groupe qui s'appelle Los Bichos. Donc, ce sont quatre...
Je pense que ça existe vraiment en espagnol, ce mot.
Je vais vérifier.
C'est un quartet de femmes qui nous vient de Londres. C'est produit par Franz Ferdinand.
Hop, tout de suite.
Et l'album s'appelle Let the Festivities Begin. Je vous propose d'écouter cette chanson à issue, un titre de l'album qui s'appelle Lindsay Goes to Mykonos. Bichos avec Lindsay Goes to Mykonos pour leur nouvel album Let the Festivities Begin. Voilà, c'est sympa, ça s'écoute, hein, nouvel album. Ça vous permettra de réécouter les autres albums de Los Bichos si vous le souhaitez. Alors, on va enchaîner avec d'autres petites actualités en référence avec des robots, on en a cité. Longuement dans les émissions précédentes. C'est vrai qu'on avait une affection tout particulière pour les chiens robots, Dominique. Ils ont trouvé une utilité, et notamment à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Puisque c'est vrai qu'au sud des États-Unis, c'est pas forcément l'endroit où les animaux et l'homme arrivent, comment dire...
À coexister.
C'est pas ça, c'est pas forcément un terrain très adéquat pour vivre, pour le coup.
Il y a trop de kilomètres à gérer pour un humain et un chien vivant.
Voilà, c'est un endroit un peu inhospitalier, des fois. Et c'est là...
Il faut envoyer des drones.
c'est, alors il y a les drones, mais c'est là que la robotique devient intéressante, et notamment donc grâce aux robots de Ghost Robotics qui vont donc faire patrouiller des robots. Alors ici, on a un...
C'est des drones sur pattes en fait.
C'est ça. Alors j'appelle ça un animal, donc un robot de 76 cm de haut et de 32 kg. Donc un chien-robot qui va pouvoir parcourir 12 km en 3 heures avec une seule charge. Il pourra être contrôlé à distance et même se déplacer de manière autonome.
Les migrants, ils vont envoyer ils vont prendre des chats robots pour les envoyer pour que les chiens courent après, non ? Ça peut être une technique.
10 ans plus tard, t'as tellement d'animaux robots, tu sais plus où t'en es.
Non, il va y avoir des chasseurs de chiens robots. Parce que les drones, tu peux les abattre avec des fusils spéciaux anti-drones. Ils sont développés par l'armée, donc pourquoi pas la même chose pour les chiens.
Alors, sauf que les groupes de défense des droits de l'homme considèrent donc les interactions humains-robots de ce genre déshumanisant.
Oui, ça veut dire que tu traites, t'es un être humain, mais je te considère pas assez humain pour que j'envoie des vrais humains interagir avec toi, donc j'envoie des machines.
Bah, après, il faut voir aussi à quoi sert le robot, parce que si le robot il est juste là pour neutraliser
Non, je pense que c'est pour traquer, enfin pour...
Voilà.
Donc, détecter avec des caméras infrarouges, j'imagine, ce genre de choses. C'est ça, comme un drone, mais sur pattes.
Il faut savoir que tout ce qui est contrôle au niveau des frontières ont mené à beaucoup d'abus.
Oh.
Oui, à peine. Donc, alors là, on détaille à peu près 160 rapports internes d'abus physiques et sexuels des demandeurs d'asile à la frontière au cours de ces dernières années. Et en gros, l'intervention robotique permettrait donc de réguler un peu tout ça. Mais on en a parlé plusieurs fois, dans le sens où jusqu'où va être poussée la robotique, puisqu'on voit qu'on peut maintenant armer ce type de chien, de Ghost Robotics, que ce soit avec des fusils paintball ou des vrais fusils, pour le coup. Donc, ça va être mis en action. Quel sera... On voit déjà que ça provoque un peu un tollé à l'heure actuelle. Quand est-ce que ça arrivera chez nous ? C'est la grande question.
On a des frontières si importantes que ça à garder, nous.
Apparemment, selon certains candidats, oui.
Ouais, non, mais, alors, ici, on parle de protéger une frontière, mais demain, on pourrait protéger... On pourrait protéger les rues. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui de mettre une caméra le long d'un mur ? Qu'est-ce qui empêchera demain de la mettre sur un drone volant, par exemple, ou sur simplement un...
C'est ce qui empêche de mettre une caméra sur un mur, ça s'appelle la CNIL.
Alors, quand on voit qu'Elon Musk, lui, nous indique que la robotique, puisqu'il a proposé donc son robot qui sera un peu humanoïde, pour le coup, sera pour lui sa plus grosse rentrée d'argent à l'avenir, donc il va concentrer vraiment toute son énergie ici. Alors, à savoir que Tesla, actuellement, se porte assez bien. SpaceX également. Quand on voit qu'ils misent tout sur la robotique, on voit que ça va devenir vraiment un centre d'intérêt qui va évoluer de jour en jour.
Oui, le fameux grand remplacement dont certains parlent, en fait, on aurait été remplacé par des robots. C'est ça qui est dont il faut avoir peur.
Alors, on parle d'Elon Musk. On peut même si tout le monde... Je parle d'Elon Musk. Si on parle d'Elon Musk, on peut citer d'autres grandes figures de ce modèle économique.
Les modèles de notre civilisation sont magnifiques.
Avec Jeff Bezos, qui fait beaucoup parler de lui. Alors, tout le monde en parle, mais voilà. Est-ce qu'on aurait une cover du pont d'Amsterdam ? Tu en proposais une autre, toi, Dominique ?
Ah, oh là là ! Oui, c'est parce qu'on là on parle du fameux pont d'Amsterdam, parce que comment il a fait ce petit malin ? Il a acheté son bateau qui était, on dit pas ouais, garé pour un bateau.
Il a fait construire.
Il a fait construire
et amarrer, parce que c'est un des plus grands ports européens.
Au fait, quand on va sortir, il y a le pont là, le vieux pont qui date de je sais pas quel siècle.
Et qui est classé monument historique.
Voilà. il a qu'à l'acheter le pont, enfin. Donc on va être obligé de démonter peut-être tranquillement le pont.
Sachant qu'il avait été rénové en 2017 et ne devait plus jamais être démonté, sauf que derrière, quand il y a 430 millions de dollars qui sont hackés et qui ne pourront jamais sortir, après il peut très bien faire un petit tour avant le pont en fait.
Une armée. Combien il faudrait de drones pour transporter son bateau ? Oh, quelques milliers de drones, ça passe.
Est-ce que ça coûterait pas moins cher de redémonter le bateau et le remonter plus loin ?
Ouais. Oui, mais bon, ça fait parler.
Est-ce qu'avec Blue Origin, ils peuvent pas aller le faire survoler un peu ?
Oui, qu'est-ce qu'ils s'emmerdent, les gars ? Pourquoi il fait construire un bateau alors qu'il a des satellites ? Pourquoi il ne fait pas directement construire une base spatiale ? Je comprends pas ces gens.
pour terminer, puisque bah, on parle encore d'Elon Musk, on avait cité, je parle d'Elon Musk, on avait cité la semaine dernière, donc l'adolescent qui s'était amusé à programmer un automate pour suivre un peu tous les déplacements.
De la flotte privée d'Elon Musk.
Voilà, donc Jack Sweeney, cet étudiant de 19 ans qui nous venait de Floride, en fait, il s'amusait pas uniquement à faire Elon Musk, il faisait également Bill Gates, Bezos et Drake.
Tous les modèles, tous les grands de ce monde, les plus beaux spécimens de la race humaine.
Bon, enfin bon. D'autres petites actualités, je vous laisse micro ouvert le temps que je prépare cette prochaine chanson qui sera un album qu'on va déterrer de derrière l'armoire de Radio Campus qui était bien, bien caché.
Je me perds dans l'agenda, cette chose.
Non, maintenant que tu as dit ça, pour moi c'est bon, j'ai hâte d'entendre le morceau.
Peut-être veux-tu parler de comment construire une maison en Lego, Dominique.
Oui, c'est vrai. Lego, après tout, je fais du bruit, hein, parce que bien sûr, je peux pas aller à un salon sans acheter des Lego.
Alors, lors de chaque émission, Dominique ramène un petit jeu avec lequel il joue en direct. Cette fois-ci, c'est du Lego.
Oh là, une petite voiture en Lego, pour changer. Elle n'est pas électrique, elle. Et je l'ai presque fini. Non, mais je la finirai pas.
Alors,
pas
c'était, alors pour terminer cette émission, c'est un petit site belge, cette fois-ci.
C'est une société, sérieux. C'est pas la première société qui s'est eu de ça, puisque vous avez peut-être déjà vu des images, un petit peu à la façon des imprimantes 3D. Imagine une imprimante 3D géante, sauf qu'au lieu de sortir du plastique, ça sort du béton, et tu peux construire ta maison directement. Tu dessines ta maison en logiciel 3D, puis tu as une espèce de grand robot qui l'a dessiné. Et ben là, c'est des gens qui se sont amusés un petit peu à la façon des Lego. Ils ont construit des blocs, un mélange de bois reconstitué et de béton, je crois. Et en fait, tu peux faire l'ossature en bois de ta maison avec ces blocs qui ressemblent, enfin, ça ressemble vraiment à des Lego, parce que c'est très impressionnant. C'est comme des grosses briques qui peuvent s'entasser les unes dans les autres. Et est-ce que tu peux construire toi-même avec un petit logiciel le plan de ta maison et recevoir les blocs largués dans ton jardin et construire toi-même? Ça peut être très sympa.
Bon, apparemment, c'est bien isolant, ça peut faire son
succès. C'est
très
modulable, c'est ça qui est bien, c'est que un constructeur qui propose ça n'a pas à s'embêter à faire des plans ou des murs sur modèle en kit, quoi. Là, tu peux presque au dernier moment même changer des éléments.
Alors, on va se quitter en musique avec Monique Laurent, un album qui est tombé derrière l'armoire, à mon avis, parce que même à l'époque, on n'était pas sûr qu'on pouvait le passer. On va prendre un gros risque dans cette émission. On va vous passer cette chanson qui s'appelle « Moitié vanille, moitié café », qui parle bien sûr de glace ici, mais dont la pochette peut laisser sous-entendre autre chose et qui est forcément...
Et on comprend pourquoi c'est passé derrière l'armoire de Radio Campus.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On se quitte, restez sur les ondes de Radio Campus avec l'écho des gnous. À la semaine prochaine. Ciao.
La prochaine fois, vous demandez, moi.
Radio Campus, il est 19h.